Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la publication de Descrucis et président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Alors nous avons posé la question à nos auditeurs. Faut-il accorder à l'Ukraine une adhésion accélérée à l'Union européenne ? Les résultats ne sont pas les mêmes. Sur Facebook, on retrouve un non à 67% et sur Twitter et Instagram, c'est du 50-50. Qu'en pensez-vous personnellement, Nicolas Tenzer ?
Alors d'abord, je pense que ces sondages n'ont strictement aucune valeur parce que vous avez des partisans de quelque camp que ce soit d'ailleurs qui répondent en fonction de leur souhait. Donc on n'est pas du tout représentatif d'un électorat, que ce soit un électorat d'ailleurs en Belgique, en France ou ailleurs. Voilà, ces résultats, il faut les prendre avec énormément de précautions parce qu'on sait aussi que vous pouvez avoir un certain nombre de bots, un certain nombre de trolls qui évidemment profitent de ces résultats pour essayer de les fausser et pousser tel ou tel camp, et surtout le camp russe bien sûr.
Alors maintenant venons-en à la question, une telle accélération d'adhésion serait une première, pensez-vous que cela est vraiment possible ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que après la reconnaissance de la validité de la candidature à l'Ukraine, on peut vraisemblablement assez vite ouvrir des pourparlers pour une négociation, ce qui constitue la seconde étape. Et ça, je pense que les chefs d'État et de gouvernement pourraient s'y engager assez tôt, ce qui permettrait d'avoir une forme de calendrier, malgré la guerre, qui permette d'avancer et de définir avec beaucoup plus de précision quelles sont ces étapes à parcourir et d'avoir une visibilité pour l'Ukraine du moment où elle pourrait, le cas échéant, adhérer à l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en ce qui concerne le processus d'adhésion lui-même, c'est-à-dire la décision finale, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et je constate d'ailleurs que les autorités ukrainiennes, notamment la vice-première ministre chargée des affaires européennes, Olga Stefanouchka, ne demandent pas une accélération, c'est-à-dire qu'elles ne demandent pas une sorte de blanc-seing, elles ne demandent pas moins de contrôle. Elles considèrent, à raison me semble-t-il, que l'Ukraine a la capacité, d'ici quelques années, à être pleinement capable de répondre à l'ensemble des critères. Qu'est-ce que sont ces critères ? C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique reprendre l'acquis communautaire, pardon. Cet acquis communautaire, ce sont concrètement des dizaines de milliers de pages de textes concernant une série de normes techniques en matière industrielle, en matière phytosanitaire, en matière agricole, etc., sur une série de produits. Mais c'est bien sûr aussi la conformité aux principes de l'Union européenne en matière de justice, en matière de droit, en matière de régulation économique. Tout ceci prend du temps et je ne pense pas qu'on puisse donner une voie accélérée à l'Ukraine, et encore une fois, elle ne le demande pas.
Vous parlez de ces différents critères. Si on se base sur la guerre, l'Union européenne est complètement derrière l'Ukraine. Que cela changerait-il pour l'Ukraine d'intégrer officiellement l'Union ?
Alors, encore une fois, on n'est pas dans une adhésion, soyons clairs, et les Ukrainiens le savent très bien, ce n'est pas dans une adhésion d'un an ou deux ans. Ça, il n'en est pas question, personne ne le propose. Moi, je me souviens qu'un certain nombre de responsables, y compris le président de la République française, disait à un certain moment, ça prendra des dizaines d'années. Personnellement, à ce moment-là, moi, je disais non, ça peut être 5 ans, 7 ans. Mais encore une fois, ça ne peut pas être un an, deux ans. Ça, c'est tout à fait exclu. En revanche, ouvrir une perspective claire d'adhésion à l'Union européenne, tracer la voie, renforcer encore l'engagement de l'Union européenne en la matière, ça je pense que c'est un signal politique fort, et ça permet aussi aux institutions de l'Union européenne de travailler encore plus directement, encore plus quotidiennement avec les autorités ukrainiennes sur ce dossier.
Justement, la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles la semaine dernière était le théâtre de discussions qui allaient dans ce sens ?
Oui, je suis certain que le président Zelensky en a évidemment parlé avec la présidente de la Commission, le président du Conseil européen. Je pense que tout ceci, bien sûr, faisait partie des discussions. Mais encore une fois, c'est une décision qui doit être unanime de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas la présidente de la Commission ni le président du Conseil européen qui décident par eux-mêmes.
Alors, sur le terrain, maintenant, nous approchons les un an de cette guerre. Pensez-vous que Vladimir Poutine prépare un gros coup ?
Alors, je ne sais pas s'il prépare un gros coup. Ce qui est certain, et les Ukrainiens le disent, ils nous en avertissent depuis maintenant plusieurs mois, il est clair que Vladimir Poutine a essayé de reconstituer ses forces, que ce soit en termes de troupes par le biais de la mobilisation, une partie de ses stocks d'armement, pas totalement parce qu'il y a quand même les sanctions, et qu'il considère qu'il y a une sorte de fenêtre d'opportunité avant que de nouvelles armes occidentales ne parviennent à l'Ukraine. Donc, je ne sais pas si ce sera la grande offensive, je ne crois pas, et je ne crois pas que l'armée russe ait les moyens de lancer une offensive majeure. En revanche, on peut penser raisonnablement qu'il va profiter de cette espèce de césure, si vous voulez, entre maintenant où les deux forces sont en quelque sorte dans une sorte de statu quo et l'arrivée de ces armes pour effectivement essayer de gagner encore un peu de terrain.
Justement, vous en parlez, ce serait dans son intérêt d'agir rapidement étant donné que les armes vont mettre un petit peu de temps à arriver.
Oui, évidemment, et encore une fois, c'est ce que craignent les Ukrainiens depuis déjà plusieurs mois, et je pense que de ce point de vue-là, les alliés occidentaux, tant les États-Unis que l'Union européenne, ont franchement tardé à donner toutes ces armes. Je pense qu'on aurait pu en donner plus tôt, je pense que nous aurions pu, parce qu'il n'y avait pas toutes les armes évidemment disponibles, ni les formations qui n'avaient été faites, nous aurions pu certainement, dès le mois de mai, juin, juillet, accélérer considérablement, renforcer beaucoup plus vite aussi notre appareil de production, et je trouve que nous avons été extrêmement imprudents, pour ne pas dire négligents.
N'y a-t-il pas justement une peur de prendre part entière dans ce conflit il y a quelques mois, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que et les États-Unis et l'Union européenne sont complètement avec l'Ukraine?
Alors, je pense qu'il y a eu cette peur. Vous avez encore, certains utilisent même maintenant les mots escalables, de co-belligérance, ou parlent de perspectives de négociation. Je crois que tout ceci est extrêmement malsain, extrêmement malvenu. Et je pense que effectivement, vous avez raison de dire que les alliés sont complètement derrière l'Ukraine, mais je crains aussi qu'ils ne le soient pas complètement, c'est-à-dire que il y a quand même un certain nombre d'armes qui aujourd'hui ne sont pas livrées, il n'y a pas de décision claire en ce sens, je pense notamment évidemment aux avions de chasse, je pense également à des missiles à beaucoup plus longue portée, notamment vous savez les ATACMS américains qui ont une portée de 300 km et qui seraient particulièrement utiles à l'Ukraine pour frapper dans la profondeur du dispositif ennemi. Je pense que voilà, nous pourrions faire quand même beaucoup plus, et certain que nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt.
On a vu par exemple certains militaires ukrainiens arriver à Londres pour être formés. Pour le coup, la Grande-Bretagne, elle, prend part entière dans ce conflit, plus que l'Union européenne.
Alors la Grande-Bretagne est le deuxième pourvoyeur d'armes à l'Ukraine, après les États-Unis. C'est d'ailleurs pas pour rien que Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres avant de se rendre à Paris puis à Bruxelles. En revanche, c'est vrai que quand même, je dirais, nous Européens, on peut penser aux Polonais, aux Slovaques, à d'autres, les Français s'y mettent progressivement aussi, les Allemands aussi, je dirais un effort de formation, mais encore une fois, tout ceci est un peu tardif. Mais même du côté britannique, vous aurez constaté que quand même, Sunak, le Premier ministre britannique, a un peu tardé ou a, disons, est encore pas complètement dans la décision de lancer des avions. Mais c'est vrai que cette décision, elle doit être prise en commun par l'ensemble des alliés, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.
Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Si par exemple on prend l'exemple des chars livrés par la France, qu'est-ce qui a pris autant de temps pour se décider d'envoyer ces chars en Ukraine?
Je pense qu'il y avait du côté allemand toujours, vous savez, une vieille tradition de discussion, de négociation avec la Russie. Il y a eu quand même pendant très longtemps une forte complaisance vis-à-vis de la Russie, une sorte de frilosité que l'Allemagne soit impliquée trop dans la guerre. Bon, heureusement, il faut constater aujourd'hui que cela a sauté, mais ça a pris effectivement du temps, et le temps, ça signifie concrètement sur le terrain beaucoup plus de vies ukrainiennes sacrifiées.
Nicolas Tenzer, je rappelle que vous êtes directeur de la publication Desk Russie et président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.